J'imagine qu'il y a beaucoup de refouach schéma. Alors, on va essayer de faire un refouach schéma pour tous les relais Israël des Zrat Hashem. Kadosh Baruch Hu leur envoie refouach ta nefesh, refouach ta gouf, des Zrat Hashem. Zivug Agun, Meshoresh Nishmatam pour tous les célibataires, hommes et femmes, des Zrat Hashem. Parnassa de Shefa ou Bebracha pour tout l'âme Israël, des Zrat Hashem. Et Shalom Bayit pour nous tous. Parce que ça, c'est le Ika. Ça, c'est l'essentiel d'une femme. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est uniquement pour le Shalom. Le monde entier, il a été créé, mamash, que pour le Shalom. Et quand on demande aux femmes de ramener le Shalom dans leur maison, c'est pas pour rien. Je sais que ça peut paraître, des fois, on se dit, waouh, encore sur nous, encore sur notre tête, encore c'est toujours nous qui devons faire les choses. Mais Bezrat Hashem, ce soir on va essayer de comprendre pourquoi c'est sur nous en réalité cette responsabilité du Shalom Bayit. Et Bémet, quel est le rôle de la femme juive? J'ai compris qu'il y avait aussi des jeunes filles dans la salle. Le Emet, c'est que mes cours ils s'adaptent, normalement ils sont pour les femmes mariées. Mais je pense que les jeunes filles aussi elles doivent entendre ça parce que c'est aussi une très bonne préparation pour ne pas se planter après. Parce que la plupart des gens, en général, parce que la plupart des gens, en général, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Shalom Bayit? C'est parce qu'on a reçu une mauvaise formation au mariage, ou que Bichlal, on n'en a pas reçu. Donc, si une jeune fille, elle a la possibilité d'écouter, à un certain âge, j'ai pas dit trop jeune, mais à un moment donné, si elle a la possibilité d'écouter des cours sur le Shalom Bayit, c'est important, c'est pour l'aider, Bezrat Hashem, à construire sa future maison. Donc on voit que le monde entier il a été créé pour le Shalom, et que, en réalité, de quel Shalom on parle? On parle le Shalom entre un homme et une femme. Pourquoi est-ce que, d'après vous, le Shalom, il est tellement important? Qu'est-ce que le Shalom, il nous apporte? Qu'est-ce que le Shalom, il apporte à un homme? Quand je parle à un homme, c'est l'être humain, oui. Qu'est-ce que le Shalom, il apporte à un homme? L'équilibre. L'équilibre, d'accord, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir, Bezrat Hashem, tenir et qu'on va pouvoir, Bezrat Hashem, avancer dans notre vie. Parce que si un homme n'a pas d'équilibre dans sa vie, alors, vous savez, c'est comme quand vous marchez. Ouais, vous êtes complètement déséquilibré. Alors, tout ce que vous allez faire, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas. Vous voyez tout tordu. Maintenant, comment cet équilibre... Quel est le rôle de la femme dans cet équilibre? Hein? Yes. Hein? Gérer. Diriger, ouais. Mais diriger quoi? Et qui, peut-être? Hein?
Sa maison.
D'accord. Il faut comprendre que la maison juive, en réalité, c'est un Beth Amikdash. Quand je me marie, en fait, ma maison, c'est un Beth Amikdash, c'est-à-dire c'est un endroit où je vais donner la possibilité à Kadosh Baruch Hu d'avoir une résidence, et bien mettre que ma maison... C'est une pierre dans la future construction des Zrat Hashem du Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre comment je vais construire ma maison, comment je vais construire et mettre mon petit Beth Amikdash à moi. Qu'est-ce qui va faire que Akadosh Baruch Hu, il va avoir une résidence dans ma maison, ou pas, Chas V'Shalom. Donc, on a compris que le Shalom, c'est la chose la plus importante, parce que c'est ce qui, et comment on obtient donc ce Shalom, on a dit, c'est aussi parce que ça va nous équilibrer. D'accord? Et donc, quel est le rôle de la femme dans le shalom de sa maison? Comment une femme, elle va apporter le shalom à son mari? Le yishuv adat, en hébreu, ça s'appelle le yishuv adat. Ça veut dire la tranquillité d'esprit. Quelle est la tranquillité d'esprit d'un homme? Quand il a la carte bleue? Sur lui? Oui. Mais d'une manière... On va être plus spirituel. Quand tout se déroule bien chez lui à la maison. D'accord. Ça veut dire quoi que quand tout se déroule bien chez lui à la maison? Elle a femme, elle s'occupe de tout, super.
Elle s'occupe des enfants, la maison, elle a envie de travailler.
Ok, alors on se marie, je sais, très souvent on se marie parce qu'on se dit, Bezrat Hashem, qu'on est des enfants et qu'on doit construire justement notre maison. Ok, mais quand on se marie, est-ce que quelqu'un vous a donné à vous une assurance comme quoi vous allez amener des enfants au monde?
Non.
Ça, c'est bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle une matana, en réalité. Personne ne nous a assuré qu'on aura des enfants. D'accord? C'est au petit bonheur la chance, en fin de compte. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande d'être d'abord, avant d'être des bonnes mamans? De bonnes épouses. Être une bonne épouse pour son mari. D'accord. Et c'est quoi? Jusque-là, tout va bien, on est dans la normalité. C'est quoi être une bonne épouse pour son mari?
C'est d'abord de respecter les trois mitzvot de la femme.
C'est-à-dire?
Nida.
Ça,
c'est la femme.
D'accord. Ok. D'accord. Alors, Besseder. Ok, j'accepte. Mais c'est quoi aussi, je vais aller plus, on va rentrer un peu plus tachless. C'est quoi l'alimentation générale d'un couple? Quand ils se retrouvent. Pourquoi c'est tellement important? J'insiste une chose. On parle d'un sujet qui est très important et qui peut être très dramatique, mais moi je veux le rendre un petit peu plus, on va dire, humoristique, parce que Léa, on va rentrer un petit peu comme ça dans la pnimi ou dans l'intérieur des choses, et que peut-être ça peut faire mal à quelques personnes. Alors Bezrat Hashem, d'abord ce que je vous demande, c'est que oui, on peut parler, on peut être ouverte, mais il faut qu'on ait une matara, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un but. C'est que Bezrat Hashem, le cours de ce soir, c'est pour qu'on se renforce et pour que Bezrat Hashem, on puisse rentrer chez nous en ayant fait tchouva, d'accord, sur notre rôle de femme. Donc c'est vrai que des fois il va y avoir des petites blagues et des petits machins, mais restez bien concentrés, ça veut dire sur le but, d'accord. Donc nachon, l'intimité du couple, c'est l'alimentation centrale, d'accord, de la maison. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait ça? Nachon, ok. Mais pourquoi? D'où est-ce qu'on sait? Où est-ce que c'est marqué? Enfin, d'où est-ce qu'on comprend? C'est quoi? On va dire même pas marqué, parce que pas tout le monde lit la Torah, pas tout le monde connaît. Comment moi je vais comprendre maintenant que ça, d'accord? Ça veut dire le kesher, l'union entre un homme et une femme, ça c'est l'alimentation centrale d'une maison. Hein? Le mariage? Ouais. Non, on se perd. Attendez, revenez. On a parlé que l'union intime entre un homme et une femme, ça c'est l'alimentation centrale de la maison. D'où est-ce que je sais ça?
C'est pas déjà quand dans la Touba c'est écrit que l'homme se doit déjà de satisfaire sa femme. Mm-hmm. C'est déjà une note qui donne l'assurance que c'est obligé de bien se passer entre les deux pour que par le marche.
D'accord. Et comment on voit ça nous alors après quand on voit ça Tachlès? À quel moment maintenant on va voir que c'est bémet très important? Non, on vient de se marier. Deux minutes. Wait. Parce que quand on passe sous la choupa, quelle est la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir ensemble? De s'unir. Pour vous. De là, je comprends quoi? Que si Akadosh Baruch Hu, il a mis autant d'importance et qu'il a mis autant le dagesh, c'est-à-dire la mamash met un point d'honneur là-dessus, que la première mitzvah que le couple va devoir accomplir ensemble, c'est justement cette mitzvah, d'accord, de s'unir, de l'ekayem, c'est-à-dire de faire cette mitzvah, c'est que là, je comprends en réalité qu'il y a une importance très très importante dans cette histoire. C'est-à-dire, je ne peux pas passer à côté de ce point-là. D'accord? Parce que si Bémet, ce n'était pas quelque chose d'important, alors à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, bon, mettez les tefillines ensemble, faites Afrachat Sralah ensemble, faites des choses comme ça ensemble qui sont, on va dire, spirituelles. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a demandé que le couple s'unisse juste après la choupa. Bon, maintenant on fait les fêtes et tout, mais Dans la normalité, c'était vraiment pratiquement, on fait la seuda et on s'unit donc le plus rapidement possible pour bémet dire ça y est, on a consommé le mariage. La question elle est, qu'est-ce que la femme elle apporte dans tout ça? Parce que... La femme c'est le keli, c'est-à-dire c'est celle qui va recevoir, d'accord, mais... Qu'est-ce que la femme, elle va apporter à l'homme, d'accord, à partir du moment où, justement, elle va s'unir à son mari? Elle va le protéger de l'extérieur, d'accord. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand un homme et une femme n'ont pas de shalom bayit, ça veut dire qu'ils ne sont pas épanouis dans leur intimité, automatiquement, ils perdent ce qu'on appelle la hagana. C'est quoi la hagana? C'est comme une protection. C'est une protection, c'est-à-dire que quand il y a un shalom bayit dans le couple, d'accord, que la femme est épanouie et que l'homme est épanoui, automatiquement il y a une protection contre qui? Contre le serpent. Rappelez-vous le serpent qu'il y avait, vous vous rappelez? Avec Adam et Ève, ben, il est toujours là. De la même manière qu'il est venu chez Chava et qu'il lui a fait dour comme ça, d'accord, et qu'il lui a embrouillé la tête et que Chava, elle est tombée, d'accord, et ben, le serpent, il est toujours là. Il a à chaque fois une nouvelle forme, mais il est toujours là, le serpent. Donc, tout le but du mariage, c'est que la femme puisse apporter à son mari du yishuv à da'at, une tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, alors j'ai entendu tout à l'heure que la femme va s'occuper de tout, le manger, la maison, les enfants, c'est très bien. Mais si vous faites à manger la maison, les enfants et tout le reste, mais que l'essentiel ne se fait pas, alors tout ça ne sert à rien. Parce qu'un homme, il ne peut pas avoir de yishuv hadaat si il n'a pas justement sa femme qui est là pour lui. Et si un homme n'a pas de yishuv hadaat, alors il ne peut pas servir Hachem. Ce n'est pas possible. Il n'a pas la tête et l'esprit en repos. Un homme, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il ait l'esprit en repos. Et ça, il ne peut y arriver que par sa femme. Or, qu'est-ce que le Yetzer Hara fait à la femme? Elle est fatiguée. Alors, type de fatigue, mal de tête, maux de ventre, j'ai un anniversaire ce soir. J'ai un cours ce soir aussi, la bondo. Je sais pas, bon, toutes sortes. Chacune, elle va trouver son excuse. Ouais, on a dit un cours. Ouais. En général, ils sont contents quand ils disent retourne, t'as fait du bien. Donc, le Yetzer Hara, il va attaquer la femme. Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, il va attaquer la femme d'Afka, d'accord, dans ce point-là? Dans le point donc de son intimité, ça veut dire c'est de là où en réalité le couple il va tirer sa force. Pourquoi le Yetzer Hara va attaquer d'Afka la femme et pas l'homme? Parce que la femme, elle est le pilier du monde. Elle est le pilier de sa maison. La femme, c'est le pilier. Quand vous avez une maison, d'accord? Dans la maison, il y a plusieurs poutres, il y a plusieurs murs. Il y a les murs porteurs, il y a un mur porteur, puis il y a plusieurs murs. Le Yetzer Hara, lui, il ne va pas se casser la tête. Comme du temps de travail, vous savez, je vais vous dire une chose. Rien n'a changé. L'histoire est la même. Vous changez de personnage, de décor, c'est la même histoire. Dans une maison, d'accord, il y a le mur porteur, puis il y a plein d'autres murs. Le Yetzer Hara, il ne va pas se casser la tête. Il va dire, attends, pourquoi je vais éliminer le mari, les gosses, les machins, tout ça? Parce que je perds du temps. Je vais aller toucher la femme directement. Pourquoi? Parce que la femme, en réalité, c'est le mur porteur de sa maison. Nous sommes les piliers de notre maison. Or, le Yetzer Hara, lui, se dit, je vais venir la toucher et la faire tomber. Comment? En la touchant dans son intimité. C'est-à-dire que la femme, très souvent, elle n'a pas envie. Normalement, il y a marqué quoi? Beitishtokekbo. Normalement, il y a marqué que la femme, elle va désirer son mari. C'est la femme qui désire son mari. C'est pas le contraire. ça qu'on nous fait croire que c'est le contraire, d'accord? C'est dans le monde un peu libre. Mais le Hémet, c'est que c'est la femme normalement qui doit désirer l'homme. Je vais vous lire un texte, vous allez comprendre de quoi on parle. Vous savez que... Deux secondes. Voilà. Je vais vous lire un texte. On va essayer de comprendre à travers ce texte. Alors, pour vous remettre dans le contexte, pour celles qui ne connaissent pas bien la Tarat HaMishpacha, ou qui ne la pratiquent pas encore, Bezrat Hashem, que vous avez le mérite de la pratiquer un jour. À part le temps où la femme, elle a ses règles, et que là, c'est évident qu'elle doit se séparer de son mari, il y a trois dates où, quand la femme, elle n'a pas un cycle régulier. Quand la femme n'a pas un cycle régulier, Chachamim, ils ont donné trois dates où la femme, elle a peut-être, d'accord, il y a une probabilité que la femme, elle va recevoir ses règles. Quelles sont ces trois dates? La première date, c'est ce qu'on appelle Onat HaChodesh, ça veut dire la période du mois. Si par exemple, vous avez eu vos règles le Aleph du mois dernier, alors le Aleph du prochain mois, vous devez vous séparer, d'accord? Si vous les avez eu en journée, vous vous séparez en journée. Si vous les avez eu en soirée, dans la nuit, vous vous séparez dans la nuit. La deuxième date, c'est la Ona Benonit, donc c'est le 30e jour, c'est la période moyenne, pareil, du jour des règles, vous comptez 30 jours, et à ce 30e jour, vous devez vous séparer de votre mari, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles. Et la troisième date, c'est ce qu'on appelle Ona Taflaga. C'est quoi la Ona Taflaga? Comment je la calcule? Je dois avoir les dates de mes deux derniers cycles, d'accord? Regardez, comptez de l'avant-dernière date à la dernière date combien de jours il y a eu, et après passer sur le mois d'après, d'accord? Celles qui n'ont pas bien compris, je peux après le cours vous expliquer, j'ai mes calendriers, j'ai tout ici. Donc, pendant ces trois dates-là, normalement, le couple, d'accord, il est interdit d'avoir des relations sexuelles pendant 12 heures, ou en période jour, ou en période nuit, d'accord? On a le droit de se toucher, on a le droit de s'embrasser, mais Chachamim, ils disent, attention, la chair est faible, on se connaît, chaque couple doit savoir comment il réagit. C'est-à-dire, si un couple il sait qu'un bisou, d'accord, va le Bezrat Hashem le conduire autre part, donc même le bisou, ils vont se l'interdire. Ça, c'est après chacun comment il voit le truc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la relation sexuelle, elle est interdite pendant cette période, d'accord? Pendant ces trois dates. Alors maintenant, on va lire comment on doit se comporter à l'occasion d'un voyage, quand le mari, il va voyager, d'accord? Avant qu'il voyage, ok? Alors écoutez bien. Avant de partir en voyage, l'époux se doit d'accomplir son devoir conjugal auprès de sa femme, même si cela tombe le jour de ses règles, d'accord? Donc une des trois dates dont on a parlé. Ou même quelques heures avant ses règles, à condition toutefois qu'elle n'ait pas vu de sang. Cependant, dans ce cas précis, il serait préférable qu'il console son épouse par de tendres paroles, de façon à ce qu'elle renonce à cela et qu'elle lui pardonne. Dans le cas où cela tombe durant la période des 12 heures, précédant donc les règles, il devra accomplir l'acte conjugal, ceci indépendamment de l'obligation qu'il a envers sa femme de l'embrasser et de l'étreindre. Et ceci, même selon l'avis de ceux qui interdisent en temps normal tout rapprochement pendant ces jours particuliers. Mais, si elle n'y renonce point, il est tenu alors d'accomplir son devoir conjugal, à condition toutefois qu'elle n'ait pas vu de sang. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a lu là? C'est-à-dire que, je vous la fais en simple, le mari doit partir donc en voyage pour... quelques temps, même deux jours, trois jours, d'accord? Vous êtes maintenant, on a dit, dans une des dates où vous êtes censé recevoir vos règles. Donc on est, c'est-à-dire que c'est interdit d'avoir une relation. Et là, votre mari, il est dans l'obligation de remplir son devoir conjugal pour vous satisfaire. Et quand même, il vient et vous dit, écoute, chérie, regarde, puis on essaye de ne pas faire parce que, tu vois, tu devrais recevoir tes règles et tout, mais voyez, il vous prend, il vous embrasse, il vous prend dans les bras, chérie, je t'aime. Et vous lui dites, non, 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 je peux pas, j'ai trop besoin qu'on soit ensemble, j'ai vraiment besoin de ça. Et vous, il vous dit, non, ouais, hein, ça te paraît bizarre, oui. C'est qui cette folle? Je la connais pas. C'est dans quel film, ça? On est dans un film science-fiction, quoi. Hein? Hein?
C'est pas possible qu'on ait deux enfants. Moi, j'ai jamais entendu une phrase qui dit à son mari, non, vas-y, mais
j'en peux plus, ouais.
En général, les lois de pureté. Non, mais en général, les lois de pureté, il faut dire ce qu'il en est, c'est très beau. C'est un grand soulagement pendant 15 jours, c'est beau.
Hoppa! Ça se déchaîne!
Je pense que la mère, les lois de pureté, c'est la première raison des disputes entre les mariés. Ça, c'est mon avis, ce que j'ai rencontré autour de moi avec mes amis. Peut-être qu'il faut être beaucoup religieux pour pouvoir accepter. Je parle pour l'homme. Hein. Mais vraiment, la vérité, je pense que si on doit parler d'un shalom bayit, c'est vraiment le problème des lois de pureté. Parce que toutes les femmes, elles sont d'accord pour le faire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est en fait de l'autre côté. Comment on fait quand on n'est pas religieux?
Ok. En fait, c'est vrai que d'abord la pureté familiale, elle n'a pas été donnée pour les religieux. La pureté familiale, elle a été donnée pour le peuple juif. Ça qu'il y a eu l'assimilation depuis, d'accord, depuis la destruction du deuxième temple, doucement, doucement. Et nous, on l'a ressenti à partir de nos grands-mères, quand ils ont, nos mères ou nos parents, quand ils ont quitté le Maroc ou la Tunisie, et que là, il y a eu un grand vent d'assimilation. Donc là, c'est vrai que ça devient difficile. Mais il faut comprendre que la pureté familiale, elle a été donnée pour tout le peuple juif. Et que si on regarde bien, ça d'abord c'est la clé de la femme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la pureté familiale à la femme. C'est d'elle que ça dépend. Et si vous regardez bien tout au long de l'histoire, le Ham Israël qui est un tout petit peuple, on a toujours voulu nous exterminer. Et pourtant, on est toujours là. Qu'est-ce qui a fait qu'on est justement ? Qu'est-ce que c'est que cette force ? Quelle est cette force du Ham Israël ? C'est justement cette pureté familiale qui nous a toujours préservés d'égoïsme, qui nous a préservés de toutes les folies sexuelles qu'on a voulu nous faire subir. Ça veut dire, ça, c'est déjà, il faut comprendre ça. Maintenant, il est clair que si, par exemple, dans un couple, pour l'homme, c'est difficile, alors la femme, déjà, elle doit se poser quelques questions. Premièrement, c'est pas parce que la femme, elle est nida, qu'elle doit devenir antipathique, et qu'on ne peut plus se parler. Déjà, c'est pas nida, ça ne veut pas dire antipathique. Ouais ? Ça vous fait rire ? Tu peux rester sympathique et être nida. Mais par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est que une fois, j'ai entendu comme ça, un homme, il est venu voir un rav avec sa femme, et sa femme, elle se plaignait. Ouais, j'en ai marre, chaque fois que je suis nida, il court derrière moi, il essaye, et c'est la guerre, et c'est l'enfer, et moi j'en peux plus. Bon. Alors là, il dit à son mari, il dit, mais pourquoi tu veux pas faire nida, toi? Pourquoi tu fais pas des efforts? Et le monsieur, il lui dit comme ça, il lui dit, écoutez, Rav, moi je veux bien faire des efforts, mais est-ce que ma femme, elle en fait? Ça veut dire quoi? Il a dit, on m'a interdit de toucher ma femme pendant cette période. On m'a demandé de faire attention. Il dit, mais est-ce qu'elle, elle fait attention? Laura, je ne comprends pas. De quoi on parle? C'est sûr que si tu dis à ton mari, ne touche pas, et que tu t'habilles à moitié habillée, c'est difficile. Tu dois aider ton mari, parce qu'un homme reste un homme. Tu ne peux pas demander à un homme de ne pas regarder, de ne pas toucher sa femme, d'accord, qu'il aime, qu'il est censé aimer quand même, et désirer, quand tu n'es pas habillé en conséquence. Alors, ça ne veut pas dire d'être moche et mal habillé, bien évidemment, tu t'habilles correctement, mais au moins pendant que tu es nida, fais un effort sur la tzniout. Tu ne peux pas demander à ton mari, quand tu es nida, de ne pas te toucher si toi tu arrives en petite nuisette ou en petit machin ou en petit t-shirt, manche courte ou décolleté. C'est pas possible. Un homme ne peut pas résister. Un homme normalement constitué, il ne peut pas résister. Tu vas me dire, ouais, ça lui fait rien, il te voit toute la journée. Non. Il te voit toute la journée et alors, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout. Donc déjà, ça c'est une chose. C'est-à-dire qu'une femme aussi, il faut qu'elle comprenne. Elle a une responsabilité vis-à-vis de ça. Si Akadosh Baruch Hu lui a donné à elle la clé de la Tarat HaMishpacha, c'est-à-dire que c'est elle qui doit faire attention. C'est elle qui doit dire, moi je dois mettre les limites, moi je dois savoir me comporter. C'est pas pour rien qu'il y a, d'accord, des règles, justement, de séparation. Ça veut dire où on doit faire attention à certaines choses, pour éviter justement tous les rapprochements. Maintenant, je pense que, Baruch HaShem, aujourd'hui, que ce soit Ashdod ou n'importe quelle ville, il y a assez de rabbanim, Baruch HaShem, qui peuvent prendre l'homme même seul, et lui expliquer l'importance de la Tarat HaMishpacha, essayer de trouver, il y a toutes sortes de comment on dit, des patentes, comment on dit en français, on comprend les patentes, de tuyaux, merci, il y a toutes sortes de tuyaux aujourd'hui pour essayer justement de faire en sorte que c'est moins difficile. On peut faire en sorte par exemple de rallonger le cycle, on peut, il y a plusieurs, on peut faire en sorte aussi de raccourcir un petit peu les règles. Si la femme elle a un cycle très long, il y a toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Rav, c'est mon ami. Et que la Torah, elle, la première chose qu'elle demande dans la Tarat HaMishpacha, pour celles qui ont déjà étudié, c'est que la Torah, elle, elle demande à la femme de tout faire pour se purifier. De ne pas rester, d'accord, longtemps interdite à son mari. Donc, après, c'est au couple, d'accord, d'aller, de s'asseoir avec un Rav et de discuter pour que chacun y trouve, d'accord, sa solution. Mais il est évident que, pour revenir à notre sujet, du texte qu'on a lu, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit ce genre de texte, on se dit, mais qui est cette femme? Je ne la connais pas, c'est une extraterrestre, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce texte. Et pourtant, est-ce que la Torah peut se tromper? Quand il y a marqué « Veitish Tokekbo » et elle le désirera. Comprends ce qui s'est passé. À la base, c'est vrai. La femme, elle désirait son mari. Une femme normalement constituée, elle désire son mari. Elle a envie d'être avec lui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la vie a fait que, d'accord, il y a un déséquilibre qui s'est produit dans le couple. On va essayer de comprendre quel est le déséquilibre. Vous savez que quand on était en Égypte, Pharaon, il a commencé l'esclavage. Et puis au bout d'un moment, il se dit, c'est pas possible. Continue ceux-là à faire des gosses. Ils ont l'air d'être détentes. Il y a un problème. Donc il est rentré un petit peu plus, d'accord, un peu plus profondément dans l'histoire. Et il s'est dit, j'ai compris. Pharaon, il était très intelligent. Et il a compris. Il a compris qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, il avait créé un équilibre dans le monde. Et que cet équilibre était que chacun sa place. La femme avait une place bien définie dans le couple et l'homme, il avait une place bien définie dans le couple. Et donc, il s'est dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais déséquilibrer l'équilibre qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. Ça veut dire, les femmes, je vais leur donner le boulot des hommes et les hommes, je vais leur donner le boulot des femmes. Donc automatiquement, il s'est dit, c'est comme ça qu'on va déséquilibrer le monde. Quand tu prends une femme et que tu lui dis, ben maintenant tu vas faire le travail d'un homme, c'est difficile parce qu'elle va commencer à prendre un peu d'assurance, elle va devenir elle-même un peu un homme. Or, deux hommes ne peuvent pas être ensemble, nachon. Et quand maintenant tu prends un homme et tu lui dis, maintenant tu vas devenir une femme, est-ce qu'une femme peut aimer une autre femme? Ça ne peut pas marcher. Il y a eu un déséquilibre. Et c'est sur ça qu'on a dit que Bisrut Nashim Tzadkaniot Yatsanu Mimitzrayim, par le mérite des femmes qui étaient des Tzadkaniot, nous sommes sortis d'Égypte. Pourquoi? parce qu'elles, elles ont tout de suite compris ce que Paro il voulait faire. Et on voit quoi dans le Midrash? Qu'est-ce qui a marqué? Elles rentraient du boulot. Vous imaginez? Elles étaient crevées. Pour celles qui bossent ici, je pense que vous allez comprendre, toute la journée dehors, en train de travailler comme des dingues, d'accord? On rentre à la maison, et vas-y, les enfants, le manger, et l'éducation et le truc. Et encore quoi après? Après que tu as fini tout, tu te dis, attends, j'en peux plus, faut que je souffle. Non, tu ne peux pas souffler encore. Tu as qui? Le mari. T'imagines? Et là, qu'est-ce que tu dis? Bon, demain. Je suis crevée. J'en peux plus. C'est pas possible. C'est-à-dire que les gosses, eux, ils vont pas te lâcher. Maman, 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 tu peux pas. T'es là, tu peux pas. T'es une mame. Mais le mari, lui, tu vois, tu vas commencer un petit peu à... Bon. Donc, elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont compris. Et il y a marqué comme ça que quand elles rentraient, après qu'elles s'occupaient des enfants et le manger, la maison et le truc... Elles se faisaient belles et elles allaient dans les champs. Parce que les maris, tellement ils étaient en dépression nerveuse d'être devenus des femmes, parce qu'eux, ils se faisaient le travail des femmes, et que c'est pas possible, un homme, tu lui dis, deviens une femme, il meurt, direct. Donc, tellement ils étaient en dépression nerveuse, ils sont partis, ils ont pas chaud de quitter la maison. Ils allaient dans les champs. Et elle, maintenant, elle est fatiguée, elle s'est fait belle, et elle la sort. Va tirer le mari pour être avec eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la grandeur de ces femmes. Elles avaient compris justement qu'elles étaient les piliers du monde et que si ce n'est pas elles qui vont faire le travail, alors il n'y aura rien qui va se faire. Donc, automatiquement, en réalité, si on regarde bien, nous, on n'est pas sortis de Mitzrayim. On est toujours dedans. Parce que la femme, elle travaille autant aujourd'hui. Et Bémet, qu'on demande à la femme énormément de choses. Et on vient encore lui dire, après tout ce que tu vas faire, il faut que tu continues à être une femme maintenant pour ton mari. La femme, elle a plus de force. La femme, elle dit, moi, j'ai pas envie. Je suis fatiguée. Et puis comme les maris, eux aussi, quelque part aujourd'hui, ils ont plus trop de force. Et que l'assimilation... D'accord, a fait qu'on s'est un petit peu perdu. Donc le couple aujourd'hui va mal et la femme va très mal. Le Yetzer Hara a touché la femme justement dans son point faible. Il sait très bien, la femme c'est le pilier de la maison, on a dit. On a dit que la femme, le but du mariage, c'est de donner du Yishuv Hadat, la tranquillité d'esprit, au mari. Pour que il puisse, et que la femme ait aussi sa tranquillité d'esprit, d'accord? Pourquoi? Pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Pour faire Torah et Mitzvot. Et on a compris que l'alimentation centrale d'un couple, d'accord, se retrouvait où? Dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint de Saints. C'est quoi? La chambre à coucher. Donc le Yetzer Hara, il ne se casse pas la tête. Il s'est dit, tu sais quoi? Je vais venir, je vais couper l'alimentation centrale. Comme ça, la maison, elle va se détruire. Elle va, pas choup, la maison, elle va tomber. La femme, elle ne va plus avoir envie. Pourquoi? Parce qu'elle va te laisser perturber par son travail, par ses copines, par le fait que beaucoup de fois aussi, on lui raconte tellement de choses sur le plaisir. Bon, Hachem, je ne lis pas les journaux féminins, mais je sais que dans la plupart des journaux féminins, dans le monde entier, en général, qu'est-ce qui a marqué du matin au soir dans ces journaux-là? Comment atteindre le plaisir? Comment faire pour être beaucoup plus attirante et comment et comment et comment. C'est-à-dire que 50 ans ou je ne sais pas combien, à quel âge à la presse écrite, mais en tout cas autant d'années après, ils sont toujours en train de se poser la question comment? Comment atteindre le plaisir? Si après tant d'années, avec autant de gens professionnels qu'il y a là-bas dans leur magazine et dans leur rubrique, d'accord? Si après tant d'années, ils ne savent pas comment on y arrive, et qui te raconte toutes sortes de bêtises et que toi tu te dis mais je comprends pas, c'est pas tout à fait plaisir qu'il y avait marqué là-bas, alors c'est pas bon, c'est que mon mari il est pas bien, il fait pas machin, donc automatiquement tu te perds parce que tu te déconcentres. Et puis aussi souvent parce que quand tu vois tes séries télévisées ou que tu lis tes livres à l'eau de rose, ben c'est sûr que ton mari ne ressemble pas tout à fait à l'acteur de la série télévisée, ça c'est sûr. Surtout le matin quand il se lève. Hein? Ah ouais, avec la barbe, maintenant elle est au maire. Mais pose-toi la question, est-ce que toi tu ressembles à l'actrice qu'il y a dans le film? Quand le matin tu te lèves et que tu es éclaté et que tu hurles, Marie se lève comme ça, tu sais, il dort. T'entends, lève-toi! Les gosses, les trucs. Donc toi aussi, tu ne ressembles pas tout à fait à l'actrice du film. Ah. J'entends rien. J'ai dit Tokekbo. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Kamazman? Écoute, je vais t'expliquer une chose. Qui aime le chocolat? Qui aime le chocolat ici? Non, tu n'aimes pas le chocolat, toi? Tu n'aimes pas le chocolat?
Non, j'adore le chocolat.
Oui. Elle a posé la question. Elle a posé la question. Vitishtokegbo. Ça veut dire, elle va le désirer. Alors, elle nous pose la question, mais jusqu'à quand on va le désirer, on doit le désirer? Alors, moi, je vous pose la question. Qui aime le chocolat? Ben, nous. D'accord. Ça fait combien de temps que tu aimes le chocolat, toi? Toute ta vie? Mais t'en as pas marre. Non? Comment c'est possible?
C'est pas, c'est
de
goût.
C'est bon?
Ah ouais.
Ben voilà. Tu as ta réponse? Si tu prends ton plaisir pendant le rapport, ben non, tu vas jamais t'en lasser. Ben justement, dans le rapport, tu as toutes sortes de formes et de variétés. Tu t'en lasses pas. Ah. Attends, on va y arriver. Rappelle-moi cette chose. Les copines. Qui c'est qui a dit qu'on peut changer de chocolat? Les infidèles là-bas au fond. Où sont les infidèles là-bas? Venez ici. Donc, l'amour, je ne vais pas dire que c'est comme le chocolat, mais presque. Si ça se passe bien, pourquoi tu n'aurais plus envie? C'est pour ça que Bémet, l'homme, quand il a signé la Ketouba, il a marqué que lui, il s'engage de donner, d'accord, la ona du plaisir, la ana'a de la femme, le plaisir de la femme. L'homme, il doit, quand il signe la Ketouba, il s'engage sur les vêtements, d'accord, la nourriture et la ana'a, le plaisir de la femme. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce que c'est la base, mais surtout, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un homme, pas peine de sauter en l'air, hein, restez calme. Un homme peut donner son cœur à plusieurs femmes, mais la femme, elle peut donner son cœur qu'à un seul homme. Donc si son mari, il n'est pas capable de lui donner du plaisir, mais où elle va aller, elle? Où elle va aller?
Acheter du chocolat.
Là, il stoppe. Marc, tu sais, je vais te dire autre chose, hein, je te retourne l'histoire. Ton mari, tu lui dis tous les soirs, il n'y a pas à manger. Premier soir, il va te dire, d'accord chérie, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Puis deuxième soir, pas de problème chérie. Troisième soir, ok, je vais être détente. Après, il va dire, ok chérie, je vais au resto. Pareil. Tu comprends, un homme qui va chercher une femme à l'extérieur, C'est pas parce que c'est un obsédé sexuel. Parce qu'il n'y a pas eu ce qu'il faut à la maison, tout simplement. Tu ne donnes pas à manger la faim, il a besoin de c'est comme ça. C'est elle m'a la sotte. Mais une femme aussi. C'est pour ça que. C'est pour ça que Bémet, Chas v'Shalom, d'en arriver à une situation pareille, c'est très grave. C'est pour ça qu'on doit prendre notre rôle au sérieux. Et que la femme, elle doit comprendre qu'à partir du moment où elle ne se reconnaît pas dans le texte qu'on a lu, c'est qu'il y a un problème. Et il faut qu'elle traite son problème. Parce que elle d'avoir casé que tu ne prends pas de plaisir quand tu es avec ton mari, c'est pas normal. Normalement, tu dois désirer ton mari. Si tu es normalement constitué, d'accord, la Torah, elle ne peut pas se tromper, c'est pas la peine. S'il y a un problème, c'est chez nous, c'est pas chez la Torah. Donc si toi maintenant, tu ne désires pas ton mari, c'est que toi tu as un problème. C'est pas la Torah qui a un problème. C'est vrai maintenant, vous allez me dire, ouais mais attends, tu vas dire, la plupart de la salle s'est reconnue, et je vous dis le émettre pour pas que vous soyez affolés, là où je vais, tout le monde se reconnaît. Donc c'est bon, on est toutes dans la même galère. Donc,
un homme, oui, il a besoin de ça.
Alors là, si tu sais comment tu te plantes, et bégadol. Je vais te dire une chose. Écoute-moi, je suis thérapeute et ma spécialité, comme tu as pu le comprendre, c'est la sexualité de l'homme et de la femme. Tu as pu le comprendre. Je vais te dire quelque chose. Si tu sais comment un homme déteste que sa femme lui fasse du sexe, tu n'as même pas idée. L'homme déteste que sa femme lui fasse du sexe. L'homme, il veut de l'amour. L'homme, il veut que sa femme et lui fassent l'amour. Pourquoi? Parce que si maintenant toi, tes copines, ça va? Les jeunes filles qui sont un peu mal à l'aise, vous pouvez sortir si vous voulez. Bah ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? 50 ans.
C'est ça, mes filles, ouais, effectivement, elles sont mal à l'aise.
Bon. Quel âge elles ont? Quel âge tu as? Quel âge elle a ta fille? Quel âge elle a ta fille? Celle de 24, Baruch HaShem, il est marié. Il est temps qu'elle connaisse un petit peu comment ça fonctionne dans un couple. Hein? T'es pas choqué? Je te promets, regarde. Je te promets. Non, peut-être qu'elles sont gênées parce qu'il y a la mère et la fille. Tu sais, des fois, je me retrouve avec la mère, la belle-fille et la belle-mère. Mais, mesdames, deux secondes. Les bras. Il y en a une qui n'est pas mariée, la femme. Il y en a une qui n'est pas mariée. Je te promets, si elle avait 17 ans, je t'aurais dit fais la sortir. 27 ans, ça va. Et je te promets, et rappelle-toi bien de ce que je vais te dire. Bezrat Hashem, elle va avoir Zivou Gagoun très rapidement. Bezrat Hashem. Et crois-moi, rappelle-toi de mon nom, Yael Taïeb. Tu seras très contente d'avoir entendu ce que tu as entendu là ce soir. Crois-moi. Parce que si tu sais le nombre de femmes que je rencontre dans la semaine et qui à la fin de mon cours me dit « Mais madame, où vous étiez pendant 50 ans ?» Moi, je n'ai jamais entendu tout ça. Et leur vie, elle a été flinguée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'elle faisait la sainte nitouche avec son mari, alors elle était, tu vois, détente. Elle était bien. Mais en fait, le mari, ce n'est pas ça ce qu'il veut. Tu comprends? Donc crois-moi, c'est bien qu'elle entende ça, ta fille. Mina Shamaïn, prends le Mishamaïn. Elle sera une bonne épouse pour son mari, Bezrat Hashem. Elle va tout comprendre très vite. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. Donc, pour revenir à ce qu'on disait. L'amour, en réalité, c'est une mitzvah. Faire l'amour, c'est une mitzvah. Une mitzvah comme une autre qui a été ordonnée par Akadosh Baruch Hu. Ça qu'on a pris l'amour et qu'on l'a rendu maintenant sale, d'accord, dans le monde libre, ça c'est le problème des goïm. Si tu es rentré toi dans le monde des goïm et que ça t'a atteint ton esprit et ton nefesh, à tel point que quand on parle de ce genre de sujet, tu te sens mal à l'aise parce que tu dis « Oh là là, c'est honteux !» Non, il n'y a rien d'honteux. C'est la normalité. C'est une mitzvah comme une autre. Maintenant, quand on s'unit à son mari, il faut comprendre que c'est l'union des neshamot. C'est pour ça que dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué qu'au moment, mamash, d'accord, de l'union, je ne parle pas des préliminaires, de l'union elle-même, d'accord, il est très important de s'embrasser sur la bouche pour qu'il y ait mamash une fusion des neshamot. Et donc, il y a une union des neshamot. Et donc, on a pris quelque chose, on a pris en réalité la spiritualité du Ham Israël. Parce que ça, c'est la spiritualité du Ham Israël. C'est pas pour rien qu'on nous dit que ça, c'est l'alimentation centrale de la maison. C'est toute la spiritualité du Ham Israël. Parce que Chas v'Chalila, quand maintenant une femme, elle se comporte comme une femme de la rue avec son mari, et qu'elle lui dit « Allez, vite, j'ai pas envie », ou « rapide » ou n'importe quoi, qu'est-ce que tu as fait à ton mari ? Tu l'as tué. Pourquoi ? Parce que, au lieu que son âme, elle s'élève, et que ton âme à toi, elle s'élève maintenant, parce que c'est une mitzvah. Qu'est-ce que tu as fait en réalité à ton mari ? Tu l'as rabaissé à son état animal le plus extrême qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire que toute la bestialité qu'il y avait en lui, tu lui as fait sortir. Pourquoi ? Parce que tu lui as dit, allez hop, entre guillemets, hein, vous n'allez pas lui dire ça, mais bon, ça veut dire ça en fait, on va faire du sexe. Et le mari déteste ça. Parce que qu'est-ce qui fait vivre un être humain ? C'est l'amour. C'est quoi l'amour ? C'est de la chaleur, de la tendresse, de l'affection. C'est ça ce que ton mari attend de toi. C'est pas juste que tu lui dis, vas-y, on y va. Et tu fais ça comme si tu étais une fille de la rue. Des filles de la rue, il y en a plein. Si vraiment il a envie, phrase de shalom, voilà quoi. Mais c'est pas ça ce qu'il recherche. Si c'est marié avec toi, ton mari, c'est parce qu'il t'aime. Parce que lui, maintenant, il a envie justement de créer quelque chose avec toi. Et que de la même manière que toi, tu veux pas que ton mari fasse avec toi du sexe dans le sens où maintenant il va aller regarder toute la poubelle de la création et qu'après quand il va se retourner, il va se retrouver avec toi et qu'il va penser à sa poubelle. D'accord ? Et qu'à ce moment-là, justement, vous savez comment le zera, il est créé ? Vous savez ce que c'est le zera tous, oui ? Oui ? Comment le zera, il est créé ? Vous savez pas ce que c'est ? Le spermatozoïde. Donc, le zera, ben oui, c'est en hébreu. Comment le zera, il est créé ? Par la pensée. Le zera, il vient d'abord de la pensée. C'est-à-dire que d'abord, je dois penser, enfin l'homme, d'abord je dois penser, et par cette pensée, le zera va se créer. Or, si maintenant, l'homme, il a de la poubelle dans la tête, et qu'au moment de s'unir avec sa femme, il pense à Dieu, la poubelle, donc le zera qui va être émis, ça va être quoi ? Une zera poubelle. Et donc, tu deviens quoi ? Un vide ordure. Ben ouais, c'est dur à dire, mais c'est bien. C'est vrai ou pas ? Et donc, ça, la femme, elle le ressent. C'est les neshamot. Donc, comment on va faire, nous, pour justement éviter, d'accord, de rentrer dans tout ce système ? Parce qu'en réalité, si vous regardez bien, c'est une spirale. On est dans une spirale, en fait. D'accord ? Et vous savez de quand elle date, cette spirale ? Depuis Adam et Chava. Vous savez comment ? Quand Chava, elle a été avec le serpent. Parce qu'en fait, Adam et Chava, ils se sont unis devant tout le monde. devant tous les animaux, puisque c'était pas honteux, puisque c'était rien, c'est... Il n'y avait pas de saleté, c'était propre, c'est ce que je vous dis, c'est à la base, c'est normal, c'est propre, c'est comme si maintenant je te dis je prends un verre d'eau, je fais une bracha, je vais avoir honte de faire une bracha devant toi, non, mais c'est pareil. Et donc, quand Adam et Chava se sont unis, le serpent il a vu Chava et Adam, et il a dit, moi aussi je la veux. Je vous rappelle que le serpent il avait une apparence d'homme à l'époque. Et donc, quand il a été chez Chava et qu'il lui a tourné la tête, et qu'il y a eu malheureusement une relation entre elle et lui, il y a eu une véritable relation, et qu'elle a goûté du fruit défendu. Alors Akadosh Baruch Hu, il est parti voir, et elle, après qu'elle a vu la relation avec le serpent, qu'elle a pris le fruit, elle a dit, Adam, viens ici s'il te plaît, mange-toi aussi. Et lui, ben, il a fait ce que sa femme elle veut. Tu vois, en réalité, la force de la femme, tu fais ce que tu veux de ton mari en réalité. Tu tiens la neshama de ton mari dans le creux de ta main. Et donc, quand après les deux ils ont fait la faute, Hachem il a été voir Adam et il lui a dit, dis-moi Adam, qu'est-ce que tu as fait comme faute? Et Adam il lui dit, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a été voir Chava. Il a dit, dis-moi Chava, qu'est-ce que tu as fait comme faute? C'est pas moi, c'est le serpent. Tu te rappelles pas quelque chose? Chacun il se refile le bébé. Personne n'est capable de prendre ses responsabilités. Dans un couple, si maintenant chacune de nous, on se pose la question pourquoi on ne s'entend pas avec notre mari ou pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, c'est de sa faute. C'est sûr, tu n'es pas folle. Tu ne vas pas faire des histoires exprès. Donc, à aucun moment, quelqu'un se dit, attends, il faut que je prenne quand même mes responsabilités et que je me pose les bonnes questions. Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité dans le manque de Shalom Bayit chez moi? Tant que tu ne prends pas conscience de cette question et que tu ne te la poses pas tous les jours, parce que le Shalom Bayit c'est tous les jours, donc tu es atteinte d'une maladie universelle qui s'appelle Mahalat Asibatiyut. C'est la maladie des, comment on dit en français, des excuses. Maladie des excuses. Ce soir, je ne peux pas, j'ai mal à la tête, puis demain, j'ai le ventre, et puis demain, j'ai la grand-mère, et après-demain, j'ai autre chose. Les roquettes, au moment où tu te dis, mais attends, je suis où, moi, dans mon couple? Je fais quoi? Si moi, en réalité, maintenant, je ne suis pas là avec mon mari, et que je ne vais pas lui donner de l'amour, et de la chaleur, et de l'affection, et de l'écoute, et de l'attention, mais, en réalité, je le mets en danger, mon mari. Parce que je te rappelle, le soir, le matin, quand il s'en va, tu te rappelles comment tu es, toi? Tu as gueulé comme une dingue avec les gosses. En général, il t'a laissé en jogging. Dans le meilleur des cas. Et puis quand il va au travail, à la banque, dans le bus, j'en sais rien quoi, qu'est-ce qu'il voit en général? La femme a prêté. Bon, t'inquiète pas, hein, la femme a prêté, elle aussi, elle est en jogging il y a 5 minutes, mais bon, maintenant, elle est sortie. Donc lui, il voit que ça. Bah oui, c'est comme dans le film. Tu vois que ça. Tu ne te dis pas, l'acteur, il était l'histoire il y a 5 minutes. Il est habillé, apprêté. Et donc, tu te fais ton film. Et donc, quand il sort, lui, maintenant, et qu'il y aura toujours un serpent qui va venir rôder autour de lui, s'il n'a pas sa protection, s'il n'est pas protégé, justement, par sa femme, c'est sûr qu'il va tomber. C'est certain qu'il tombe. Au début, il va dire non, non, non. Mais combien il peut dire non? La chair est faible. Et la tentation, elle est immense. Surtout aujourd'hui, les femmes n'ont plus honte. Aujourd'hui, c'est les femmes qui draguent les hommes. Des fois, les hommes, ils ont honte, ma parole. Ils se sentent gênés. La femme, elle accoste l'homme, elle vient, elle lui parle, elle lui dit, bon, je ne sais pas quoi faire. Donc, les protéger comment?
Non, comment les yébet à Arabe?
Oui. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a les lois des achakot, il y a les lois des séparations et des interdictions pendant pendant les moments où tu es interdite à ton mari, et c'est là où justement...
C'est comme une froideur.
C'est comme une froideur, mais je vais te dire une chose. Si la Torah nous a donné, d'accord, des permissions et des interdits, c'est que nous pouvons les accomplir. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous demander l'impossible. Tu sais, Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais venir nous demander, dis donc Yael, en parlant de moi, pourquoi tu n'as pas été Sarah Imenu ? Ben non, je ne peux pas être Sarah Imenu, je suis Yael. Par contre, il va dire, mais pourquoi tu n'as pas été Yael ? Chacun de nous, tu comprends, on a un potentiel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il ne t'a pas donné une mitzvah qui est impossible d'accomplir. Tout est dans la tête. Si toi, tu te mets des obstacles en te disant, non, je ne peux pas, je ne peux pas, alors c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Mais en réalité, si maintenant, Béhémeth, pendant les moments où tu es permise à ton mari, toi, tu te donnes à 100% pour lui. Tu vas lui donner ta neshama. Tu comprends ? Mais c'est, tu l'as protégé, ton mari. Et si Béhémeth, pour un homme, c'est difficile, alors comme je vous ai dit, il y a des moyens de faire en sorte de rallonger le cycle où tu vas être permise. Il y a des moyens aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais se dire, non, je ne peux pas faire Tarat HaMishpacha parce que ça va être trop dur, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du shaker. Non, non, j'ai compris, mais je...
Il y a une...
Tu ne peux pas être à 100% chaleureuse, mais si le mari, tu lui as donné tout ce qu'il avait besoin avant et que toi, tu as pris, parce que c'est ça qui est important. Tu ne peux pas donner si toi, tu ne prends pas. Si on s'est donné mutuellement, en réalité, on s'est vacciné pour la suite. Et en plus, on sait qu'il y a autre chose. Tu comprends ce que je veux te dire ? Simplement, le problème, il est où ? C'est que, dû à certains tabous, la femme, elle ne va pas oser parler avec son mari, parce qu'elle croit que c'est honteux, que ça ne se fait pas, surtout chez les Sfaradim. Les gens d'Afrique du Nord, on a grandi un petit peu comme ça. Quand on a grandi en France, on a grandi dans un pays, qu'on le veuille ou pas, d'accord, chrétien. Et que vous savez que tout ce qui est sexualité dans la chrétienté, c'est tabou. On n'en parle pas. Donc, rappelez-vous quand on regardait la télévision, quand il y avait genre des scènes un peu... Hein, mes parents, soit ils zappaient, soit ils disaient, bon, regardez pas les gosses. Ah ouais, je connais pas ça. Donc, ça veut dire que de base, d'accord, depuis le début, qu'est-ce que tu as compris, toi, en réalité, à cette histoire de relations sexuelles, depuis que tu es petite ? Que c'est quelque chose de pas très bien, c'est quelque chose de sale, d'honteux. Parce que, c'est sûr, on te montre la chose la plus intime, la plus belle chose, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, on te la montre comme ça n'importe comment avec des gens, des étrangers, tout ça. C'est sûr, tu ne peux pas croire que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, tu as en réalité, d'accord, depuis petite, on t'a formaté. On t'a formaté et on t'a bloqué. Et arrivé au mariage, d'accord, bah, quand on te dit bah, maintenant c'est open, tu peux y aller, c'est permis, c'est mitzvah, c'est truc, bah, toi, tu n'es pas bien parce que tu te dis, mais. Inconsciemment, bien sûr. Tu dis, mais moi, j'ai pas envie d'être comme la dame là, qui avait dans le truc, parce que ça, c'est les filles pas bien. Moi, j'ai pas envie d'être comme les goyotes. Et tu te fais tout d'un film. Tu te dis, c'est honteux. Ça se fait pas. Je suis pas une goya. Je suis pas ça. Je suis pas ça. Et en attendant, tu es en train de bousiller ton couple. Parce qu'un couple bari, un couple en bonne santé, c'est un couple où, justement, on va parler. C'est-à-dire que quand toi, la femme... Alors, je ne vous dis pas, hein, premier nuit mariage pour celles qui sont mariées vierges. Bon, c'est sûr, ce n'est pas le top, mais les A4, on va apprendre à se connaître. Mais pour toi, d'accord, en tant que femme, si tu es censée donner à ton mari, mais que tu ne prends pas de plaisir, et que tu ne dis pas à ton mari, combien de temps tu vas pouvoir simuler ? Combien d'années ? Et je te rappelle que ta simulation, au fur et à mesure du temps, va te rendre nerveuse, aigrie, amère, et que tu le veuilles ou pas, tu vas développer une vie parallèle. Des occupations, de par ton travail, de par tes amis, de par tout ce que tu veux, jusqu'au jour où tu vas marier tes gosses, puis tu vas te retrouver face à face avec ton mari, puis tu vas dire, ben, je l'aime pas, je me suis trompée. C'est possible que tu te sois trompé, tu l'aimais au début. Personne t'a mis un couteau sous la gorge. Donc, si toi maintenant tu ne prends pas conscience que cette mitzvah, tu te dois de l'accomplir parfaitement, et que de la même manière que tu vas étudier les lois de la Tarat HaMishpacha, de la même manière que ton mari va étudier les lois des Tfilin, comment faire Afrachat Chala, comment s'habiller Tsanoua, etc., etc., tu te dois de savoir comment faire pour que justement cette mitzvah se passe parfaitement. Parce que si toi tu prends du plaisir, d'abord tu as donné à ton mari, d'accord, la possibilité de devenir un homme. Parce qu'un homme qui sent que sa femme ne prend pas de plaisir, ça le casse. Tu l'as cassé complètement dans son intériorité, ça veut dire qu'il est, il est brisé au fur et à mesure du temps. Il n'a plus de bitachon atzmi. Parce que toute la force de l'homme, c'est quoi? C'est justement, c'est sa virilité. Mais si toi, en réalité, tu ne prends pas de plaisir, et qu'il est évident qu'il n'est pas bête, en général, si tu n'as pas pris de plaisir et que, bon, Nagui t'a simulé, et qu'au bout de quelques temps, tu commences à... Les alzelbo, comment on dit les alzel en français? Tu vas commencer à le dédaigner, à manquer de respect, tu vas devenir nerveuse, tu vas être pas sympa avec lui... Donc ça veut dire qu'il y a un problème, il va dire ma femme elle m'aime pas. Puis quand tu vas lui dire ce soir j'ai mal à la tête et demain j'ai encore autre chose et encore autre chose, qu'est-ce qu'il va se dire lui? Ma femme elle m'aime pas. Parce que si tu aimes ton mari, bah je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de plus évident et normal que de vouloir être avec lui? C'est la normalité. Donc si maintenant ton mari, tu ne lui donnes pas la possibilité justement de te donner du plaisir parce que toi tu vas venir lui dire écoute chérie, ça, ça ne me convient pas, ça c'est pas comme ça, cette caresse c'est différent, parle, Kadosh Baruch Hu t'a donné une bouche, parle, explique lui il n'est pas devin, il sait pas, lui en réalité on lui a dit bon tu sais quoi, il y a des points où la femme elle prend du plaisir, bon il va au petit bonheur de la chance, mais est-ce qu'il sait après qu'il y a une certaine sensibilité, qu'il faut aller doucement, qu'une femme, tu ne peux pas la toucher comme si c'était, je sais pas, moi, un mur ou un truc. Ou... Doucement, si tu ne lui expliques pas, c'est comme lui. S'il y a des choses qu'il n'aime pas, tu ne fais pas, tu changes. Il faut s'adapter. Ça s'apprend. Et ça, c'est avec la communication. Et puis, il faut s'adapter aussi avec le temps, parce que le corps, il change. Ce que tu aimais à 20 ans, ce sera peut-être plus la même chose à 40 ans. Puis on évolue. Il faut se mettre à la page, dans le sens où si ton mari, il te demande des nouvelles choses, eh bien, oui, tu dois faire la volonté de ton mari. Et si toi, tu lui demandes des nouvelles choses, oui, il doit être avec toi. Parce que vous vous devez de construire votre maison. Et que ça, c'est l'alimentation centrale de votre maison. Souvent, on demande, dans des maisons où on observe vraiment strictement la loi, et que donc le père et la mère ne nous montrent pas en réalité. C'est-à-dire ils se comportent devant les enfants comme des frères et sœurs, en fin de compte. C'est-à-dire qu'à aucun moment on voit que le père et la mère se touchent. Alors souvent, on se pose la question, on se dit, mais comment ils font les enfants pour savoir? On a besoin de faire sentir aux enfants que papa et maman, ils s'aiment. D'accord? C'est vrai que les enfants, ils doivent savoir que papa et maman, ils s'aiment. Seulement, comment moi, je peux montrer à mon enfant ce que j'ai de plus intime? Et ce que j'ai de plus beau, comment je peux partager ça? Ça, c'est pas possible. Par contre, un enfant, il ressent quand son père et sa mère, ils s'aiment. Comment? Parce que quand il y a de l'amour, alors il y a du respect. C'est agréable. La maman, elle est calme. Le papa aussi. Tu vois, il y a une certaine, comme ça, harmonie dans la maison. Par contre, très souvent, on voit des couples où, soi-disant, ils font leur genre. Tu vois tout le show dehors. Puis en réalité, ils se déchirent la tête. Et les enfants, ils le ressentent, ça. Un enfant, il ressent. Tu peux mentir au monde entier. Tu ne pourras pas mentir à tes enfants. Ce n'est pas possible. Un enfant, tu ne mens pas. Parce qu'un enfant, il est cool au émet. Donc, pour la santé nafshite de nos enfants, spirituelle, et même goufanite, ça veut dire matérielle, on se doit, nous, en tant que femmes, pilier de nos maisons, de construire nos maisons avec nos maris. Avant d'être une bonne maman, tu dois être une bonne épouse pour ton mari. Laisse tomber les enfants. Je vous garantis que si vous êtes à 100% dans votre couple, vos enfants ils vont grandir tout seuls, comme des champignons. Par contre, si tu t'investis 100% dans tes enfants et que tu oublies que tu es une femme et que tu as des, et que tu as un mari, tes enfants ils vont grandir tordus. Pourquoi ? Pourquoi les enfants ils vont grandir tordus ? Ouais, qui c'est qui a dit pas de modèle ? Parce qu'il n'y a pas de modèle, mais je vais aller encore plus loin. C'est sûr que quand un enfant est grandi dans une maison où il n'y avait pas de modèle de shalom bayit, ben il va faire pareil, inconsciemment. C'est-à-dire que si par exemple le père parlait mal avec la mère, le fils parlera mal avec sa femme. Et la fille, elle parlait mal avec son père, avec son... la mère, elle parlait mal avec son mari, ou elle dédaignait son mari, ce sera pareil. Une fois, j'avais eu un couple qui était venu me voir. À la base, la femme, elle était venue me voir parce qu'ils étaient mariés depuis, je crois, 20 ans. Et qu'en 20 ans de vie commune, malheureusement, on pouvait compter leur relation sexuelle sur les 10 doigts de la main. Et elle... T'as pas compris ? Je répète ? Ils étaient mariés depuis 20 ans, un couple qui était venu me voir. Et je dis malheureusement, à la base, elle était venue me voir pour un problème sexuel, dans le sens où les relations qu'ils avaient eues ensemble, on pouvait les compter au bout de 20 ans sur les 10 doigts de la main. C'est dramatique. Et... tu as fait les comptes. Et donc... la femme est venue me voir en pleurant. Et croyez-moi que ce n'est pas des cas isolés. Hein. Malheureusement. Et la femme est venue me voir en pleurant en me disant « Mon mari n'a pas de besoin. Mon mari ne ressent pas. » Bon. On a parlé. Et puis à un moment donné, on en a fait venir le mari. Et puis elle me parlait que... voilà, elle me parlait le schéma de la maison, comment c'était pas. Puis quand le mari est venu, donc j'ai eu... le couple, face à moi. Quand j'ai parlé avec le mari, la première chose qui m'a frappée, c'est que je lui parle et puis au moment de... je pose une question. Au moment de répondre, vous savez ce qu'il fait ? Il baisse comme ça la tête, puis il regarde comme ça un peu sa femme avant de me répondre. Et puis... bonne thune. Je gagne. Et donc, là, Baruch HaShem, Akadosh Baruch Hu, Bémet, il m'a fait une grande matana parce qu'on a gagné beaucoup de temps. J'ai tout de suite compris. J'ai compris qu'en réalité, cette femme, qui était très sympathique, elle me parlait de sa mère, de la relation que sa mère avait avec son père. C'est elle qui régnait, c'est elle qui dirigeait, c'est elle qui faisait que le père, à la fin, au bout de X années, il était devenu comme ça. Eh bien, elle avait reproduit la pauvre sans le vouloir parce qu'elle en voulait tellement à sa mère et elle voulait tellement pas ressembler à sa mère, mais sans s'en rendre compte, elle avait reproduit à tel point que le mari, elle a tellement cassé, brisé, qu'il n'arrivait même plus à être un homme. Ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi je parle. Il n'avait plus d'érection. Rien, ça marchait pas. C'est pas un drame, ça? Après 20 ans de mariage, bon, il y a un T1-2 qui est pas mal, Baruch HaShem, on a réussi et ça marche. Baruch HaShem, grâce à Dieu. Mais ça a été une matana, en réalité. Donc, tout ça pour vous dire, mais l'importance de la femme dans le couple. Si tu ne t'investis pas dans ton couple... mais tu vas être un assassin. Tu vas d'abord, toi, te suicider, tuer ton mari et tuer tes enfants parce que ton enfant ne fera que reproduire. Combien de fois j'ai les parents qui sont en thérapie chez moi. Les enfants, quand ils sont contents, Baruch HaShem, ils m'envoient les enfants quand il y a un problème de shalom bayit. Je vous promets. On a calqué, c'est copier-coller. Pareil. Pourtant.
Ça veut dire que quand les parents divorcent,
Très souvent, très souvent. Pas obligatoirement. Regarde. Pas obligatoirement, mais. Regarde, à moins que tu fasses un travail personnel et que vraiment tu as pris conscience des choses et que tu vas devoir, maman, travailler, t'investir, en général, on reproduit ce qu'on a vu. Malheureusement. Malheureusement. Et heureusement des fois, bah, au Hachem. Heureusement, bien sûr, on va rester optimiste. Donc, comment c'est possible que des enfants qui ne sont pas dans le Kodesh HaKodashim des parents, comment c'est possible qu'ils reproduisent ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas là, eux. Ils n'ont pas vu. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle un ribour des Neshamot. C'est-à-dire qu'il y a une relation dans les Neshamot, entre parents et enfants. Donc les Neshamot, elles ressentent. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez mentir au monde entier, mais pas à vos enfants. Et en général, on est marqué comme ça. Si tu as travaillé tes midot avant de te marier, Baruch HaShem. Si tu n'as pas travaillé tes midot, les midot c'est des qualités en général, oui. Quand tu n'as pas travaillé tes midot avant le mariage, le mari te les fera travailler. Et si Bémet, le mari, n'a pas réussi à te faire travailler les midot, ça sera tes enfants qui t'éduqueront. Et là, il n'y a pas de cadeau. Les enfants sont ingrats. Ils te sortiront tout dans la tête d'un coup. Et là, ça fait mal quand c'est les enfants. Donc, tu dois prendre conscience. Une femme, on doit toutes prendre conscience d'une chose. Il y a eu une faute qui a été faite au commencement du monde. Chava, avec le serpent. Et on est toujours bloqué dans cette faute. Dans le sens où on doit toutes prendre conscience que nous sommes les piliers de nos maisons. Et que si nous, on ne fait pas l'effort de construire nos maisons, alors on va les détruire. C'est comme ça. Le mari pourra vouloir construire jusqu'à demain. Si toi, tu ne veux pas construire ta maison, si toi, tu ne prends pas en main les choses, il n'y aura rien. Isha bona, isha oreset. La femme construit, la femme détruit. Quand tu as décidé de construire, Akadosh Baruch Hu t'a donné un potentiel en toi. Tu peux tout faire. Ton mari te suivra. Mais si tu as décidé de détruire ta maison, même si lui vient, il veut être sympa avec toi, il veut tout faire. Si toi, dans ta tête, tu as décidé destruction, il n'y aura que de la destruction autour de toi. Donc le rôle de la femme ici, il est primordial. Alors vous allez pouvoir me dire... Quoi, il n'y a que ça? Ça peut paraître un peu bizarre. Mais peut-être je me trompe, je ne sais pas. Mais de par l'expérience que j'ai, de par ce que j'ai reçu Baruch HaShem par mes maîtres, je peux vous garantir que quand une femme, elle fait attention à son mari, quand une femme, elle s'investit à son mari, avec son mari, quand elle va lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de chaleur, alors elle va préserver sa maison et elle va faire, Bezrat Hashem, elle va faire grandir sa maison, elle va construire sa maison. Ça, c'est le rôle de la femme. C'est tout ce qu'on nous demande. Tu peux me dire que tu fais plein de mitzvot, des teilim, tu vas donner à manger aux enfants malades, à des femmes qui ont accouché, tu vas faire beaucoup de chesed, tu vas faire plein de choses, c'est très bien. Tu vas écouter plein de cours de Torah, c'est bien. Kol hakavod. Mais si tu ne fais pas l'essentiel, qui est de donner à ton mari, de construire ta maison, crois-moi, ça ne sert à rien. Laisse tomber tout le reste et ne te concentre que sur ça. Tu as tout compris et c'est comme ça que tu construiras ta maison. C'est vrai, ta chaîne, il va voir. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que j'ai pu susciter un peu de... Parce que pour... Oui.
Il y a des choses différentes qui arrivent plus que d'autres. Elles ont vécu des épreuves, elles étaient là, elles n'ont pas lâché, elles sont là. Il y a des femmes à côté qui des fois, elles ont pas... Enfin, c'est difficile pour elles, elles n'ont pas la capacité, ou alors elles n'ont pas grandi dans une famille, ou alors elles n'ont pas tellement les cartes en main, et il y en a que deux. Alors, on est toutes différentes. Comment que... Chacun est différent. Comment on peut s'en sortir avec ça?
Je vais te le dire tout de suite.
qu'il n'y a qu'une loi pour tout le monde.
La Torah est une. Regarde. Batia, apporte-moi le livre à Bénou, s'il te plaît, page 615, parce que ce sera plus facile pour moi. Je vais vous lire un... Il y a un livre. Faites passer, voilà, s'il vous plaît. Il y a un livre magnifique que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Rabbeinu. C'est un puits de sagesse et je ne me lasse pas de le lire et de le relire. Merci. Regarde, écoute ce qui a marqué. Tout homme a sur terre une œuvre particulière à accomplir. Cela se nomme tikkun ou réparation. Si cet homme cherche à réussir sa vie et à remplir sa mission, il sera d'emblée guidé par la providence divine vers des situations où il devra affronter un certain nombre d'épreuves. D'abord, on aidera cet homme en lui donnant des forces, de l'inspiration, un temps de préparation afin qu'il emmagasine des forces, des provisions spirituelles. Puis, lorsque le ciel jugera qu'il est enfin prêt, on le testera en lui retirant sa haute vision des choses, son esprit large. On le placera volontairement dans un contexte éprouvant en lui retirant ses biens, son argent, ses amis, etc. Ou même son envie de faire les mitzvot. Alors il sentira qu'il tombe, et il tombera réellement. Mais ce dont il devra absolument se souvenir dans cette chute, c'est du but de cette situation. Ce n'est ni pour le rejeter, ni pour le punir, ni pour l'exclure que la providence divine l'a entraîné dans cette chute. Mais au contraire, par amour pour son bien et pour sa véritable réussite. Dieu n'est pas un tyran. Il ne demande pas à l'homme plus qu'il ne peut accomplir. Il ne lui demande de faire que ce qui lui est possible sur le moment, par des moyens habituels. Et pour cela, une seule condition est requise. Ne jamais se décourager. Ne pas penser que le ciel lui en veut ou bien qu'il est chassé du paradis. Mais au contraire, qu'un grand honneur lui est accordé, celui de s'accomplir en tant qu'homme au sein de l'épreuve, et ceci grâce à l'épreuve. Bon. Je ne vais pas vous lire tout le livre, mais je vous le reconseille. De là, qu'est-ce que tu comprends? Le mariage, en réalité, c'est ta réparation. C'est notre réparation à nous toutes. Et celle qui a cru à un moment donné dans sa vie que le mariage, c'est un long fleuve tranquille, ou une partie, ou un beau pique-nique, ouais, je sais que le réveil est dur. Il est même tragique, certainement, pour certaines. Parce que le mariage, en réalité, ça va être ton épreuve. Tu vas pouvoir te réaliser qu'à partir de ton mariage. Et au sein, d'accord, de ton couple, donc tout au long de ton mariage, tu vas traverser des épreuves. Des fois, ça va être des épreuves terribles. Des épreuves qui vont te faire très mal. Et tu auras justement cette sensation de dire « Je ne peux pas. C'est pas possible. Je jette l'éponge. C'est pas possible. Je ne peux pas. » Et à ce moment-là, il faudra que tu comprennes. C'est à ce moment-là où tu dois te renforcer. Et tu dois dire, je ne me décourage pas. Je vais prier. Je vais implorer à Kadosh Baruch Hu et je vais être ma'amina d'une chose. C'est que si à Kadosh Baruch Hu, il t'a fait passer sous la roupa, c'est que ça, c'était sa volonté. Et ce n'est qu'à travers ton mariage et ton mari que tu vas pouvoir t'accomplir. Tu dois faire l'effort. Tu dois continuer encore à implorer. Tu dois encore demander. Tu dois encore supplier. Tu dois tout faire pour réussir dans ton couple. Il n'y a que ça qui est intéressant. Le reste, ce n'est pas important. Tu comprends? Bézrat Hachem, il barre que tu aies le courage, Bézrat Hachem, et tout le courage, Bézrat Hachem, de construire nos maisons. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Le divorce, il existe dans la Torah.
Il y a toute une maserhet. Mais il est pour des cas bien précis. Si tu regardes bien...
c'est qu'en général, les cas de divorce, si Bémet une personne, elle cherche le Emet. Chercher le Emet, ça veut dire savoir où est son propre mensonge. Si tu cherches où est ton mensonge, alors tu sauras où est ton Emet. Où est le Emet? C'est-à-dire que si tu ne refiles pas le bébé à chaque fois en disant c'est de sa faute, c'est de sa faute. D'abord, tu cherches ta part de responsabilité. Et d'abord, tu dis, tu sais quoi? Moi, d'abord, je vais réparer ce que moi, j'ai détruit. Crois-moi qu'en général, quand toi, tu répares ce que tu as détruit, automatiquement, de l'autre côté aussi, il reconstruit. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas, il y a des cas où le divorce, il existe, elle m'a la saute. On doit passer par là. Mais si tu vas à la rabanoute, et malheureusement, j'y suis, donc je sais ce qui se passe, la plupart du temps, je te promets, c'est toujours des problèmes qu'on peut résoudre, tout le temps. Je suis tombée en je ne sais combien d'années, d'accord, d'exercice, que très rarement sur des cas psychiatriques graves pour lesquels on ne pouvait rien faire. Et que là, les rabbins, ils ont dit à la femme, tu peux rien faire, elle m'a la sorte. Mais quand, en général, on divorce, c'est pour un problème de midot. C'est parce que tu n'as pas...
Hein? C'est les dayanim qui jugent.
C'est pour ça que je te dis, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais quand maintenant, en général, on remarque un petit peu les causes de divorce, d'accord, souvent, c'est un problème de midot. Tu comprends? C'est parce que tu n'as pas voulu t'annuler. Parce que tu n'as pas voulu faire ton boulot. Parce que tu n'as pas voulu essayer d'être à l'écoute de l'autre. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu n'es qu'à ta propre écoute. Tu n'es pas là pour écouter l'autre aussi. Tu comprends? C'est sûr que quand ça ne va pas dans un couple, on est deux personnes en souffrance. Parce que ne crois pas que quand toi, tu es mal, l'autre en face, il s'éclate. On est deux à souffrir. Viens, on essaye de s'asseoir. Qui même apprend quelqu'un, un rave, un conseiller, n'importe qui, un ami en qui on a confiance, quelqu'un qui a une certaine sagesse. Viens, on s'assoit. Viens, on discute. Viens, on va essayer de voir chacun où est notre part de responsabilité. Viens, moi, je vais commencer déjà à faire mon travail. Et automatiquement, il y a un répondant de l'autre côté. Tu comprends? Donc, le divorce, bien sûr qu'il existe, bien évidemment. Mais si on peut l'éviter, bien sûr qu'on va l'éviter. Parce que quand il y a un divorce, le misère aussi pleure. Tu comprends? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'écoute. Clavioute. Ah, mais d'abord, être gambi, je l'anachim. Ok. Ok. Tout le monde comprend l'hébreu ou je traduis? Je traduis. Elle a dit comme ça que il y avait avant le Yetzerara. Aujourd'hui, il y a un Yetzerara qui, selon tes dires, a changé. On va arriver à ça. Et elle demande justement comment on fait aujourd'hui avec le Yetzerara d'aujourd'hui. Ça veut dire les femmes à moitié habillées, les femmes qui sont là en train justement d'agresser les maris, etc., etc. Même si c'est des hommes qui peuvent être religieux avec barbe, béote, kippa, tout ce que tu veux, tout le monde est touché. Elle demande donc,
quels sont aujourd'hui, d'accord, les kelim, les méthodes, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme méthode ou comme ustensile pour justement se prévenir de ce genre de problème. Alors, tout d'abord, je veux que tu saches que le Yetzer Hara, il a toujours été là. Dans le sens où, si tu lis un petit peu la Bible, alors tu vois que, Rakhreda, à Sodome et Gomorre, c'était l'éclatade totale. Tu peux même pas imaginer, ça a été la débauche comme c'était pas permis. C'est-à-dire que si tu crois qu'aujourd'hui on a inventé quelque chose, je te promets qu'on a réinventé. Tu sais, à l'époque, pour vous donner une petite idée un petit peu, d'accord, comment ils étaient, parce qu'il n'y avait pas la pilule à l'époque, hein, vous savez. Alors, les hommes, ils prenaient des femmes comme ça, et souvent, ils leur disaient, c'est toi qui vas venir sur moi, pour qu'au moment justement où ils ont fini l'acte, déjà, le zéram, entre guillemets, non pas vraiment, et que tout de suite, tu lui disais maintenant, lève-toi et saute pour que le zéra, il tombe. C'est pour ça que la Torah, elle nous interdit à nous les femmes, après la relation avec nos maris, de nous lever tout de suite. On se doit de rester allongé pendant au moins un quart d'heure pour ne pas qu'on reproduise le maasez d'homme. Attention, avoir la relation avec son mari en étant sur lui, c'est permis. De temps en temps, il y a des trucs, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de chacun, mais que vous n'allez pas croire que c'est interdit, d'accord ? Continuez vos habitudes. Mais, ouais, surtout... Non, je sentais Pitom, tu sais, il prend le truc... Vous ne vous regardez pas. Non, gardez vos habitudes. Par contre, pour celles qui ont de mauvaises habitudes de se lever juste après, alors Bezrat Hashem, essayez bien de faire attention. De rester allongé, quelle que soit la position d'ailleurs, après la relation pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, pour justement ne pas reproduire le maasez d'homme. Donc tu vois, à l'époque déjà, ils étaient très tordus dans la tête. Maintenant, c'est sûr que le problème de l'homme, il a toujours existé. C'est-à-dire que si un homme ne fait pas attention à ses yeux, d'accord, Rabbi Nachman, il nous dit que toute la avéra, elle commence par les yeux. Parce que c'est sûr, si tu ne fais pas attention à tes yeux, mais même nous les femmes, hein, croyez pas, même nous les femmes, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on regarde. Parce que si on regarde la poubelle, elle va rentrer en nous. Et on va rentrer la poubelle à la maison. Donc, si tu ne fais pas attention à tes yeux, et que tu ne prends pas conscience, justement, d'accord, de la gravité des choses que tu regardes, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans un engrenage. Tu comprends? Donc, justement, après. Tu ne vas pas pouvoir, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer avec le Yetzer Hara. Il faut comprendre une chose, il y a marqué « Vehu inatzeach otan »« Vehu inatzeach otrem » Le Yetzer Hara, il vous gagnera. Ça veut dire que, en réalité, si tu veux venir te mesurer devant le Yetzer Hara, laisse tomber, tu as perdu d'avance. Ne joue pas avec le feu. Quand maintenant, Hachem, il a créé le monde... Il a créé, vous savez quoi d'abord ? La tchouva. Parce qu'Hachem, il savait qu'on allait tomber, il savait très bien tout ce qui allait se passer. La preuve, le monde venait d'être créé. Sarakol, Chava, on lui a dit, tu ne manges pas, jusqu'à Knissat Shabbat. 6 heures, il fallait attendre. On était H-6. 6 heures avant Shabbat, c'est quoi 6 heures ? Et pourtant, elle n'a pas résisté. Et bien, au Hachem, Kadosh Baruch Hu, il a pardonné, parce que Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Donc, quand maintenant un homme, il n'arrive pas à prendre, justement, à faire attention, d'accord ? Il faut que nous, les femmes, en réalité, on revient encore à la même chose. Si nous, les femmes, on prenait conscience, justement, de l'impact qu'on a dans le monde, on comprendrait que déjà, nous, il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que, c'est pas que moi, toi et elle, c'est toutes et toutes, on va les dire encore à toutes, et encore, et encore, et encore. Parce que si la femme, elle fait attention et qu'elle comprend que son corps n'est pas un jardin public, que non, pas tous les hommes de la création, ils ont besoin de savoir quel bonnet elle fait dans son soutien-gorge ou quelle couleur elle est sa culotte. Mais que ça, c'est quelque chose qu'elle doit réserver à son mari. Si chaque femme, elle comprend ça, il n'y aurait plus de problème. Tu sais ce qui a marqué ? Quand un homme, il a fait Zera Levatala, c'est-à-dire qu'il y a eu une émission séminale en vain, d'accord ?
Alors quand il arrive à 120 ans, on lui dit, pourquoi j'ai fait Zera Levatala ? Tout ce qu'il dit, c'est à cause d'elle. C'est elle qui m'a fait trébucher. Comme du temps de Chava et Adam. Qui c'est qui a fait trébucher Adam ? Chava ? Tu comprends le truc ? C'est que nous, les femmes, en réalité, on a, encore une fois, je te le répète, nous sommes le pilier du monde. On ne se rend même pas compte du rôle qu'on a dans le monde. On n'a même pas idée. Pourquoi ? Même ça, regardez. Le monde libre, qu'est-ce qui nous a fait croire ? Que la femme, que l'homme, c'est armage. L'homme fort et la femme, sexe faible. Alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. La femme, en réalité, c'est le pilier du monde. Tout passe par elle. Ce que ton mari, il est, c'est ce que tu as bien voulu qu'il soit. Tu veux que ton mari soit un bandit, il sera un bandit. Tu veux que ton mari soit un dépravé, il sera un dépravé. Tu veux que ce soit un tamit racham, il sera un tamit racham. C'est toi qui choisis. Maintenant, bien évidemment, il faut du temps, il faut de la patience. Tu ne peux pas obtenir tout de suite le gadol ador. Ce n'est pas possible. Tu dois savoir que le mariage, en réalité, c'est tous les jours un peu de travail. Un peu de travail. Mais il ne faut pas que tu penses que tu es le rave de ton mari. Si toi, tu vas commencer maintenant à venir dire à ton mari, lève-toi, il va dans la tefila, il va étudier, il va faire. Tu as tout perdu. Ce n'est pas comme ça que tu le ramèneras. Ton mari, tu vas le ramener justement par l'amour, par l'affection que tu vas lui donner, par l'oreille attentive, par la chaleur que tu vas lui donner. Ça, ça va être sa choma. Ça, ça va être sa muraille. C'est comme ça qu'il va être protégé. Si maintenant, si Bémet, maintenant tu fais ton cheshbon nefesh, et que Bémet, Bémet, tu donnes à ton mari tout ce qu'il a besoin, d'accord ? Et que malgré tout, il y a un problème, alors il faut aller voir un professionnel. C'est que peut-être que lui, il a un problème aussi. Et ça se traite. Tu comprends ? Mais avant de dire l'autre a tort, fais ton cheshbon nefesh. J'avais comme ça une fois, j'avais il y a 10 ans peut-être, je donnais un cours aux Israéliennes. Et c'est un cours comme ça qu'à vous, à toutes les semaines. Il y en a une, elle me dit, moi j'en ai marre, mon mari c'est un obsédé. Je dis, ah bon ? Pourquoi ? Elle fait, tous les soirs, il veut. Je dis, et est-ce que tous les soirs, tu lui donnes ? Elle me dit, ah ben non, oh. Alors je dis, bah, c'est normal. Il essaie son jour de chance tous les jours. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Faut bien que le type il se dit, bon, il n'y a pas eu hier soir, peut-être ce soir, elle va être d'accord. Alors tous les soirs, et elle a dit, ben il est obsédé. Ben non, tu l'as rendu un obsédé, ton mari. Elle m'a la saute. Tu comprends ? Ou alors il y en a, pendant des années, c'était régime sec. Rien. C'est quoi ? Rien. Et puis après, quand il a été voir ailleurs, ah, vite, il faut que je récupère mon mari, parce qu'on a été voir ailleurs. Alors là, je t'explique, c'est 2 fois par jour, matin et soir. T'as pas le choix. Ouais ? Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des patients, c'est 2 fois par jour. Ah ben ouais, il faut récupérer le mari. Qu'est-ce que tu veux faire ? Une fois qu'il a été connaître la petite mignonne qui lui fait tous ses petits désirs, toi, à côté, tu fais pas le point. Hein. Avec tous tes stress, et tous tes tabous, et comment t'es tordu, et ça ne fait pas, et ça, je me fais pas, et t'es là comme ça, t'attends que ça se passe, et tout, ben ouais, ça peut pas marcher. Ben oui, parce que c'est ça, en réalité, faire. Tu comprends le sexe. C'est quand t'es là, allez vite, vas-y, fais. J'attends. Tu crois que t'as fait l'amour à ton mari, Laurique, hein ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Hein ? Ouais, c'est direct, c'est cash au moins. Mais au moins, c'est clair. Hein, il n'y a pas de sous-titres chez moi. C'est clair et net, mais au moins, tu sors d'ici, tu n'as aucune question. Je vais ta chaîne. C'est-à-dire que c'est prêt à l'emploi. Est-ce que tout est permis ? Question cruciale, est-ce que tout est permis ? Écoute, il n'y a rien de pas joli. À partir du moment où tu le fais, Bekdusha ou Betahara, tout est beau. C'est Hachem qui a créé tout ça. Si tu crois que tu as inventé quelque chose, tu n'as rien inventé du tout. C'est Hachem qui a tout inventé, qui a tout créé. T'inquiète. Bon. Alors, est-ce que tout est permis ? Hein? La dernière fois, il faut que je reste sur ce que j'avais dit la dernière fois. Non, pas de problème. Regarde, Bécaron, on va dire comme ça. Il y a deux choses normalement qui sont normalement interdites. C'est la sodomisation. Et c'est quand l'homme maintenant, il va vouloir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit que c'était obligé.
Non, attends, on va y arriver, deux secondes. Je te donne en gros. Donc. Titre général. Donc, la sodomisation, c'est interdit normalement. Et le fait que quand le mari veut embrasser le bas, le macum de sa femme. Ça, c'est les deux choses normalement qui sont interdites. Mais, maintenant, tu sais, il y a les grandes lignes. Et en général, il faut lire entre les lignes. À savoir que tout dépend les besoins du mari. Tout dépend l'origine. C'est-à-dire, est-ce que l'homme, c'est un Baal Tshuva? C'est pas un Baal Tshuva? Qu'est-ce qu'il a connu? Il n'a pas connu? Et pour chaque cas, il faut aller chez son rav, ou chez un rav, ou appeler quelqu'un, d'accord, qui est dedans, expliquer le cas. Et selon le cas, alors moi je sais, d'accord, moi je sais qu'il y a des rabbanim qui permettent, de temps en temps, dans certains cas, d'accord, que l'homme embrasse le macum de la femme. Par exemple, si la femme, elle peut prendre que du plaisir, comme ça, ça dépend, d'accord. Donc, ça, tu comprends, ça c'est des choses, c'est-à-dire c'est entre les lignes. La sodomisation aussi, normalement, c'est interdit, mais ce qui est vraiment, vraiment interdit, bien sûr, c'est que l'homme, Chas v'Shalom, il fasse ce qu'on appelle Zera Levatala. Ça veut dire qu'il émet son Zera, d'accord, dans un endroit où ça n'a pas lieu d'être. Le seul endroit où un homme il peut émettre son Zera, c'est dans le vagin de la femme. Tu comprends? Hors vagin, c'est assourd. Donc, tu vas dire peut-être qu'un homme, peut-être que lui, il peut dire, bon, j'ai besoin de ça, mais je vais savoir me retenir, il faut qu'il n'y ait pas de zéra, et qu'après, on passe, tu vois, sur le vagin. Mais ça, il faut faire chez la trave. La fellation, pour celles qui n'osent pas le demander. Ben ouais, c'est vrai, moi, la fois, on m'a demandé, je ne savais pas, j'ai dit, bon, je vais demander. C'est des choses qu'il faut demander, parce qu'il ne faut pas avoir honte, parce qu'après, tu te retrouves bloqué avec ton mari, et lui, il est là. Là. Bon.
C'est pareil, si lui, il n'a pas le droit.
Alors, la fellation, c'est sûr que c'est la même histoire, dans le sens où l'homme n'a pas le droit d'émettre, d'accord, le zéra dans la bouche de la femme. C'est pareil, c'est zéra levatala, sourd. Donc si Bémet, un homme a besoin de ça, et que tu dois faire la balance, qu'est-ce qui est mieux, que toi tu vas lui donner ça, toi sa femme, dans le cadre du mariage, dans le cadre de la tarata mishpara, c'est-à-dire t'es permise maintenant à ton mari, qu'est-ce qui est mieux que de temps en temps tu lui donnes ça, mais c'est sûr, c'est pas le top, je suis pas en train de vous dire maintenant, allez-y, il vaut mieux éviter. Mais si un homme, il a besoin de ça, qu'est-ce qui est mieux dans la balance? Que toi, tu lui donnes, ou qu'il va faire des fantaises du matin au soir et qu'il va commencer à faire du Zera Levatala, ou alors qu'il va les voir ailleurs? Fais la balance. C'est facile, tu sais, si tu fais la balance, je peux te garantir, après, c'est une question de logique. Tu comprends? Tu ne peux pas venir dire, ah non, moi, je ne fais pas ça. Sur quelle que soit la position, quelle que soit la chose, tu ne peux pas dire, moi, je ne fais pas ça. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que normalement, on n'a pas le droit d'avoir de relations dans la journée. D'accord? Si on a des relations dans la journée, il faut tirer, il faut fermer les stores. S'il y a des relations, si l'homme ou la femme désire avoir des relations dans la journée, il faut bien fermer les stores et que ça se fasse dans le noir et toujours bien sûr se couvrir. Mais, regardez une chose. Donc normalement, on n'a pas le droit. Il y a une histoire comme ça de la Gemara qui raconte qu'il y avait un Tana. Un Tana, c'était un, comme vous direz, un grand Dayan, mais beaucoup plus grand, bien sûr, que un tzadik, qui était assis comme ça, comme là, Nagid, on est assis. Et puis, il y avait des femmes qui venaient pour faire des shélot, poser des questions. Une femme, elle vient pour faire une shéla. Il y a marqué comme ça qu'elle avait, quand elle est venue, elle avait le coude découvert.
Alors à l'époque, le coup de découvert, ce serait genre, elle est venue avec un décolleté. Tu vois, c'est à peu près pareil, j'imagine, parce que sinon, c'est pas possible. Tu vois nos maris aujourd'hui avoir un coup de découvert, ils se sentent mal. Bon. Amen, amen qu'on revienne là où on était, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Donc, il a vu le coup de la femme qui est venue faire une chéla. Qu'est-ce que la Gemara, elle nous dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes choqués? Non, attends. Il a fermé son livre, il a fermé sa Gemara en plein jour et il est parti voir sa femme. Elle, maintenant, elle aurait pu faire la lourde. Ah non, tu comprends, pleine journée, il y a les gosses qui vont venir, machin, ta, ta, ta. Balance. Qu'est-ce qui est mieux? Je donne maintenant tout de suite à mon mari. Et mon mari va être libéré. Mon mari va avoir Yeshuva Dat. Mon mari va pouvoir faire Avodat Hashem. Ou alors je fais mal lourde. Et mon mari va être là en train de gamberger, va savoir fantasmer, etc., etc. À toi de savoir, tu veux faire la lourde ou tu veux construire ta maison? Ben non, c'est pas interdit. Sauf qu'il y a des conditions. Tu comprends ce que je veux te dire? Si tu as fermé les trices, si c'est fermé et que ton mari il a besoin, ou que toi tu en as besoin, toi aussi tu comptes, hein? Si vous en avez besoin l'un et l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, 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 on va attendre, machin. Mais en attendant, les mauvaises pensées. C'est très grave, les mauvaises pensées. La Vera, elle vient à cause des mauvaises pensées. Tu peux pas rester comme ça, surtout un homme. Oui. J'ai répondu à la question ou il y a d'autres questions dans le genre, j'ai répondu à ta question? Qu'est-ce qui est permis ou pas? Je crois que j'ai été claire. J'ai été voir les trois trucs les pires. Le reste...
En théorie, je suis d'accord.
C'est pas de moi, hein, tout ce que je vous ai dit, en fait, la Torah. Donc c'est normal que vous êtes d'accord avec la Torah.
Des
quoi?
Des volets, des tristes, comme quoi il faut baisser. Pourquoi mettre dans la tête des gens qu'il faut baisser des volets pour faire ça en pleine journée ou être, enfin, donner des heures ou pas des heures?
Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Gemara, dans la Torah, il y a marqué Kadosh Ani Vetiouk Doshim. À Kadosh Boko, il dit je suis saint et vous devez vous sanctifier. Le peuple juif, c'est un peuple saint. Or, si maintenant, il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, c'est la nudité comme ça. Rappelle-toi, avant on était nus. Après la faute, c'est couvert. Donc, nous, on se doit de se sanctifier. Tu comprends? C'est-à-dire que la relation intime entre un homme et une femme, tu peux la rendre dégoûtante, comme veut nous le montrer le monde libre, où tu veux la rendre magnifique comme la Torah nous le demande. La Torah, elle t'a donné des normes. Chachamim, ils nous ont dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça, ça s'appelle le Derech Eretz. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu te dois d'avoir un Derech Eretz, tu te dois de te sanctifier en tant que juif. Maintenant, une des raisons aussi pourquoi il faut faire ça, pourquoi il y a marqué par exemple que c'est bien de faire ça après Chatzot, c'est-à-dire le soir, tard. Parce que, encore une fois, si un homme, d'accord, si un homme maintenant, il y a marqué qu'un homme, quand il s'unit à sa femme, il ne doit penser qu'à sa femme. Parce que Chas ve Chalila, s'il pense à une autre femme, c'est un problème. Donc, par exemple, si maintenant toi, tu laisses fenêtre ouverte, par exemple, ou volet ouvert, etc., etc., il peut y avoir du bruit. Il peut y avoir des choses qui vont venir à lui le perturber. Ou tu laisses la télé allumée. Pendant que ton mari est avec toi, il y a la télé à côté. Tu vois le truc? Donc la Torah...
Quand il fait tout noir, il peut avoir l'image haute.
C'est pour ça... C'est pour ça que la Torah... C'est pour ça que la Torah, elle te dit... Velo tatouru achare nechem v'achare levafrem. C'est-à-dire, si maintenant toi tu ne prends pas conscience que tu dois faire attention à tes yeux, tu ne peux pas commencer à regarder n'importe quoi. Parce que qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Tu as regardé la poubelle. Au moment où tu vas prier, par exemple, ça c'est mitzvah, qu'est-ce que tu crois qu'un homme y pense quand il prie? Il pense à Dieu? Il pense à tout ce qu'il a pu voir. Et toi quand tu pries, c'est pareil, toi tu penses. Ta facture d'électricité, tes gosses, tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu te dois de te sanctifier. Tu te dois de te mettre des limites. Tu comprends? Il faut se concentrer, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué. Parce qu'il y a. Non, mais tu. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il ne faut pas, parce que, encore une fois, d'accord? Encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se sanctifie à travers la relation intime entre un homme et une femme, justement. Cette relation qui peut être très animale, nous, on doit la monter à l'état d'être humain. Tu comprends? À l'état spirituel. En allant vivre, en faisant les choses comme il faut. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, si maintenant, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle à la chôte de Tarat HaMishpacha, les Bnei Tesha Midot, les 9 fils qui ont des défauts. Entre autres, c'est les enfants, par exemple, qui ont été. Qu'on dit constitués, on dit en français? Conçus, merci. Les enfants qui ont été conçus, par exemple, si l'homme, Chazé Shalom, il pense à une autre femme, c'est grave. Ou si l'homme, il a pris sa femme de force, c'est grave. Ou si l'homme, par exemple, il déteste sa femme et qu'il va avec elle, ou qu'il pense qu'il va la divorcer mais qu'il va avec elle. C'est toutes sortes de situations que la Torah, elle interdit. Mais en réalité, tout ça, pourquoi la Torah aussi, elle a interdit? Pourquoi Bémet, la Torah, elle demande, d'accord, fermer les volets, faire attention. Je vais te dire aussi pourquoi. C'est pour protéger la femme. Parce que si la femme, si le mari voit sa femme, et que sa femme, elle a ce qu'on appelle un moum, elle a un défaut, il peut en arriver à la détester, il peut en arriver à être dégoûté, et ouais, et oui. Tu crois que toutes les femmes, elles ont des corps parfaits?
Non, il a vu avant, au défaut quand même.
Comment il a pu l'avoir avant? Non, normalement, tu es censé ne rien faire avant le mariage, donc il n'a pas vu normalement. Il y a des femmes, elles sont gênées. Il y a une femme, elle a par exemple. Non, mais je ne te parle même pas, moi, après. Il y a des femmes, depuis toujours, elles ont un petit problème. Pas grave, elles ont un petit truc, elles ont un petit complexe. La femme, tu comprends, elle va se sentir plus libre, plus à l'aise.
Non, moi, quand je me parle des volets.
Tu as un problème avec les volets, toi. Bon, ferme les rideaux. Ferme les rideaux, c'est pas grave.
En fait, le maître. Non, le maître caché.
De mettre le mal, en fait. Le mal? Moi, j'ai mis du mal. Plus on peine que moi, il n'y a pas.
On est plus fort, nous?
Oui.
Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les générations d'avant, je veux dire, je parle de nos mères, il y en avait plus, il y a plein de mères qui ne faisaient pas une mikvé. Elles se séparaient, mais elles ne faisaient pas une mikvé. Moi, je veux dire, quand on va parler de mikvé, on croyait que c'était l'entrée de leur femme.
Oui, je sais.
Donc, elles ne faisaient pas ces personnes. Donc, nous, on est quand même revenus à ça.
Bon, Hachem.
On ne le fait pas super bien. Maintenant, on ne peut pas non plus tout tomber, comme vous avez dit, pour vivre dans. Avec son temps. Plus on va banaliser, on va enlever ce côté sale du rapport sexuel comme on voit de l'amour. Je pense que plus l'homme ne va pas y penser en fait quand il est avec d'autres.
Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais t'expliquer une chose. Là, quand tu parles comme ça, tu me montres en fait que tu ne connais pas l'homme. Parce que l'homme, c'est sa nature. Je te promets que l'homme. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé. C'est pas parce que c'est un obsédé sexuel. Comme ça, Hachem, il a créé.
C'est pas non plus la personne parfaite.
Qui, l'homme?
Ah ouais, je ne sais
pas. Ben non, attends. Qui parle de perfection ici?
Non, mais je veux dire l'homme en lui-même, je veux dire.
Mais il n'y a pas de perfection.
Dans toutes les religions et tout. Non, l'homme, le sexe masculin.
Mais attends.
Je ne pense pas à mon mari. Parce que
heureusement, parce que voilà. Ben imagine-toi que toutes les femmes elles pensent comme ça de leur mari, heureusement. Ben non. eux aussi reproduisent ce qu'ils ont vu.
Ah, mais tout ?
Ben oui.
Ils ont vu, ils ont ressenti tout. Mais eux, à la limite, les femmes, elles se remettent en question.
Elles
se remettent en question la femme. Elles ne peuvent plus se remettre en question l'ancêtre que l'homme. Je trouve, hein, avec les enfants, comme je vous dis, on prend des gifles. L'homme, non.
Ça dépend. Ça dépend parce que je peux te dire que dans la génération où on vit aujourd'hui, très souvent tu as des femmes qui vont voir ailleurs aussi. Hein. Réveille-toi. C'est aujourd'hui malheureusement, tu vois. Aujourd'hui malheureusement, c'est doute daddy. C'est-à-dire que ce cliché de dire c'est l'homme qui va voir ailleurs. Malheureusement, la femme aussi elle est attirée, la femme aussi elle est touchée, la femme aussi elle tombe, et la femme aussi elle va voir ailleurs. Pourquoi ? Parce que des deux côtés c'est le émettre. Si la femme n'est pas satisfaite dans sa vie sexuelle, elle a perdu sa protection. Si l'homme n'est pas satisfait dans sa vie sexuelle, il a perdu sa protection. Tu peux venir après philosopher, me dire oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Anybody, on peut parler jusqu'à après-demain même si tu veux. Mais il y a une réalité. La réalité, elle est simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a constitués. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a créés, tu comprends ? Avec des besoins. Tu ne peux pas venir dire non. J'annule ses besoins. C'est pas possible. Une femme, elle a besoin de prendre son plaisir. Et un homme, il a besoin de prendre son plaisir. Tu comprends ? Donc, si maintenant tu dis non, c'est rien, c'est pas grave, c'est pas important, tu as banalisé le truc. Et que tu t'investis pas dedans, ben, à un moment donné, tu vas devoir payer les pots cassés. Elle m'a la saute. Mais non, je t'ai pas dit que tous les hommes ils vont tromper leur femme, heureusement. Alors allez-nous. Mais, rappelle-toi ce qu'on avait dit tout à l'heure. Un homme qui n'est pas épanoui dans son couple, mais c'est un homme qui va perdre tout son bitachon atzmi. C'est un homme qui n'aura pas envie de rigoler, c'est un homme qui va plus être sympathique, c'est un homme qui va être hargneux, c'est un homme qui va être nerveux, qui va mal parler avec sa femme. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que tu l'as brisé dans son essence. Tu ne peux pas venir dire, bon, c'est pas grave. C'est pas important. C'est le plus important. Tu comprends? Si maintenant tu me dis, tu n'es pas tellement d'accord, je te promets, tu sais quoi? Fais un test avec ton mari. Dis-lui, chérie, tu sais quoi? Non. Dis-lui, tu sais quoi, chérie? Pendant 3 mois, je te mets au régime sec. Mmh. Tu verras, tu vas me dire que ton mari, en fin de compte, c'est la même crapule que tous les autres. Si tu mets ton mari au régime sec pendant 3 mois, il va devenir pareil que tous les autres. Hargneux, détesteux, ta. Pareil. Parce que il vit à travers ça, il a besoin de ça. Tu ne peux pas lui enlever ça, c'est pas possible. Comme toi, on ne peut pas t'enlever ça non plus. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres théories? La balance. Qu'est-ce que tu vas dire? Chérie, excuse-moi, j'ai fait chemin Israël, on se revoit demain. Toujours la balance. Pas de problème. Oui. Après quoi? Non, jamais de la vie. Mesdames, c'est important. Les copines, c'est très important ce qu'elle vient de demander. Elle a demandé ce que c'était appelé Zera Levatala, que d'avoir des relations quand justement on n'est plus fertile, type enceinte, type ménopausée, type grand-mère. J'ai dit ménopausée parce que moi aussi je suis grand-mère, hein, mais bon, on n'a pas 50 ans. Hein? Ouais, j'ai 2 petits-enfants. Bon, donc, type grand-mère. Qu'est-ce que t'as?
Non, je dis les grand-mères qui ont peur.
Ouais, on est grand-mère. Donc, ce n'est pas Zera Levatala. Au contraire, la Torah le stipule bien. À tout moment, l'homme et la femme se doivent, c'est un devoir, d'accord, de se retrouver. Que la femme soit ménopausée, que la femme soit enceinte, que la femme prenne une pilule, que la femme est instérilée, que la femme tout ce que tu veux, c'est un devoir de se retrouver.
Donc c'est pas zéro
des matins. Ma pitonne. Elle demande est-ce que c'est Gérald.
La femme, elle est enceinte avec les nombreux
enfants. Ça s'appelle pas Gérald Ivatala, pas du tout. Non, Gérald Ivatala, c'est quand il a. Gérald Ivatala, c'est quand il émet la semence à l'extérieur du vagin. Mais ça, c'est à sourd. À l'extérieur du vagin, c'est toujours à sourd. Toujours. Voilà. Qu'est-ce que. Je répondrai à ta question ? D'émettre le zéra en dehors du vagin, toujours, c'est très grave. Et sachez une chose. Écoute, non, c'est pas que ça sert à rien, c'est ça que tu comprends pas. Tout ce zéra qui sort, c'est des néchamotes. Elles ont besoin d'être sorties, c'est leur tikkun. Et sachez une chose, pour celles qui pratiquent la relation, d'accord, et que le mari se retire à la fin pour x ou y raison et qu'il est, il émet donc en vain comme ça dehors, sachez une chose, c'est la pire des clalas dans une maison. Ça enlève la parnassa, le shlom bayit, la briout et ça atteint les enfants. Que Dieu préserve. Vous amusez pas ça? Prenez des pilules pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Vous stérilez. Ok, c'est bon? Top, je vous remercie vraiment d'être venu. Que Bézrat Hachem, on est toutes. Merci à vous. Bézrat Hachem, on est toutes de faire tout va.